Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce jeudi 2 janvier. Bonne année 2025 à vous tous et à vous toutes. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal, les sports et focus, comme chaque jeudi, sur l'économie australienne. Et au sommaire de ce bulletin, un chauffeur a lancé une attaque au véhicule bélier qui a percuté une foule qui célébrait le nouvel an dans le French Quarter de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Le bilan provisoire est de 15 morts et plus de 35 blessés. Israël a menacé d'intensifier les frappes sur la bande de Gaza si le Hamas continue de tirer des roquettes sur la population israélienne. En Australie, une série de nouvelles mesures de réforme pour les travailleurs du secteur des soins aux personnes âgées. Un chauffeur a lancé une attaque au véhicule bélier qui a percuté une foule qui célébrait le nouvel an dans le French Quarter de la Nouvelle-Orléans, ouvrant le feu, tuant quelques 15 personnes et en blessant plus de 35 autres dans une attaque matinale que le FBI qualifie d'acte terroriste potentiel. Les autorités ont déclaré que le suspect était mort après une fusillade avec la police. La chef de la police de la Nouvelle-Orléans, Anne Kirkpatrick, a déclaré que le conducteur qui avait contourné les barricades avait également tiré sur la police et heurté deux policiers avec son véhicule.
Last night, we had over 300 officers out here. And because of the intentional mindset of this perpetrator who went around our barricades in order to conduct this, he was hell-bent on creating the carnage and the damage that he did.
Et le conducteur a été identifié lors d'une conférence de presse, comme nous l'explique Daniel Valo pour Radio France Internationale.
Oui, les enquêteurs dépêchés sur place à la Nouvelle-Orléans affirment en effet qu'un drapeau noir du groupe djihadiste se trouvait dans le véhicule, venant ainsi confirmer une rumeur qui circulait depuis déjà plusieurs heures sur les réseaux sociaux. Autre information, l'homme qui a mené l'attaque, qui a été ensuite tué par la police, était un citoyen américain de 42 ans dénommé Shamsud Din Jabbar. Son véhicule de location, un pick-up de couleur blanche, était immatriculé dans le Texas et c'est vers 3h du matin cette nuit qu'il a foncé dans la foule alors que de nombreuses personnes se trouvaient encore là pour célébrer le nouvel an. Le conducteur était farouchement déterminé à provoquer un carnage, a déclaré tout à l'heure la chef de la police locale. L'attaque a eu lieu dans le quartier français, célèbre pour ses bars et son ambiance festive, célèbre également pour héberger des lieux ouverts à la communauté LGBT. Après avoir foncé dans la foule, l'homme sorti de son véhicule a ouvert le feu sur la police, blessant deux policiers avant d'être lui-même abattu. Dans les heures qui ont suivi l'attaque, Joe Biden, le président américain, a déclaré que rien ne pouvait justifier la violence, quelle qu'elle soit, refusant cependant de s'exprimer davantage, étant donné le peu d'informations encore disponibles. Une prudence qui n'a pas été suivie par Donald Trump, qui doit lui succéder dans moins de 3 semaines à la Maison-Blanche. Le milliardaire américain n'a pas hésité à faire le lien entre la tragédie et l'immigration illégale, affirmant sur les réseaux sociaux, je cite, « Les criminels qui arrivent sont bien pires que les criminels que nous avons dans le pays ». Fin de citation.
Selon des sources d'informations palestiniennes, les frappes aériennes d'Al-Bourej et la ville de Jabalia dans le centre et le nord de Gaza ont tué au moins 17 Palestiniens. L'armée israélienne affirme Qabed al-Hadi Sabah, un militant du Hamas qui a aidé à diriger l'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël, a été tué dans la frappe. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré que les opérations militaires ciblant le Hamas se poursuivraient à Gaza si les otages israéliens ne sont pas libérés.
If Hamas does not allow the release of the Israeli hostages from Gaza, despite Israel's willingness to make far-reaching compromises in accordance with the principles outlined by the US president, and will continue to fire at Israeli settlements, it will receive blows with an unprecedented intensity in Gaza for a long time.
La Russie a lancé une attaque de drones sur la capitale ukrainienne Kiev, qui a fait 2 morts et au moins 6 blessés et endommagé des bâtiments dans 2 quartiers, selon les autorités. Des explosions ont retenti dans le ciel hier, alors que l'armée de l'air ukrainienne a averti de l'arrivée de drones et que le maire Vitali Klitschko a déclaré que les défenses aériennes repoussaient une attaque ennemie. 2 étages d'un immeuble résidentiel du centre de Kiev ont été partiellement détruits lors de la frappe. Selon le service d'urgence de l'État, 2 personnes ont été tuées. En Australie, une série de nouvelles mesures de réforme pour les travailleurs du secteur des soins aux personnes âgées et ces mesures sont entrées en vigueur au début de la nouvelle année. Après un investissement de 3,8 milliards de dollars du gouvernement fédéral, environ 340 000 travailleurs du secteur vont recevoir une augmentation de salaire pouvant atteindre 13,5%. Cela fait suite aux recommandations de la Fair Work Commission qui a déterminé que les travailleurs des soins aux personnes âgées méritent une augmentation de leurs revenus pour faire face aux pressions du coût de la vie. Pour un petit nombre de personnes travaillant dans le secteur, ces augmentations de salaire devraient être appliquées en 2 phases, la seconde devant intervenir en octobre. La ministre des Soins aux personnes âgées, Annika Wells, a déclaré que cette mesure faisait partie du plan du gouvernement visant à fournir une aide financière à tous les Australiens, un plan que le gouvernement espère poursuivre après les prochaines élections.
It's another clear example of our cost of living focus, and at the next election, our nation faces an important choice. A Labor government working every single day to get costs down for families, wages up for workers, and bring inflation back to where it should be. This is a time for building, a time for driving the change that our nation needs and creating the opportunities that our people deserve.
Le gouvernement du Victoria a défendu une nouvelle augmentation des tarifs des transports publics dans l'État. Les tarifs ont augmenté ces dernières années avec une augmentation globale de 28% au cours des 6 dernières années. Le prix maintenant d'un billet journalier étant désormais de 11 dollars. La ministre Marianne Thomas a qualifié ces augmentations annuelles de modeste.
And are designed to ensure that we can continue to invest in our network of public transport here, both in metropolitan Melbourne, but also right across regional Victoria.
Woolworths a confirmé qu'elle va vendre des produits de la fête nationale australienne dans ses magasins cette année. La chaîne de supermarchés avait été critiquée à la même époque l'année dernière après avoir pris la décision de ne pas stocker des produits de la fête nationale australienne. Cela avait déclenché les appels du chef de l'opposition fédérale et d'autres membres du Parti libéral au boycott de la chaîne de supermarchés. Mais cette année, Woolworths a déclaré qu'elle va inclure une variété de produits dans ses magasins dans le but de célébrer l'occasion, je cite, en équipe. La pierre artificielle sera saisie à la frontière, ce qui va marquer la prochaine étape de la répression gouvernementale contre ce matériel dangereux. Le produit couramment utilisé pour les benchtops pour provoquer la silicose a une maladie pulmonaire irréversible et parfois mortelle. Les nouvelles lois vont interdire l'entrée dans le pays de matériaux contenant plus de 1% de silice cristalline. L'interdiction est la dernière étape de l'interdiction de ce matériel dont l'utilisation, l'approvisionnement et la fabrication sur le territoire national sont interdits depuis juillet 2024. Cricket Australia et la Fondation McGrath ont annoncé un changement majeur au test match annuel au Sydney Cricket Ground qui a permis de récolter plus de 22 millions de dollars pour soutenir les personnes atteintes d'un cancer du sein. Et à partir de cette année, tout l'argent récolté va servir désormais à soutenir les personnes atteintes de tout type de cancer. Le test match rose, comme on l'appelle, se déroule sur 5 jours à partir de demain, vendredi, au Sydney Cricket Ground. L'ancien joueur de cricket, Glenn McGrath, se dit satisfait du changement.
To now be able to take that care to anyone with cancer, any family going through cancer, is something I think is absolutely incredible. You know, I don't think you should be discriminated against because of what type of cancer you have to what type of support you get. So to be able to now provide support for all cancers is something I think is absolutely incredible. This will be the first pink test out of the 17, the first pink test that it's for everyone diagnosed with cancer.
Deux femmes sont décédées dans des incidents de baignade dans le Queensland le jour du Nouvel An. Les services d'urgence ont été appelés sur l'île Wavebreak hier après qu'une femme qui avait fait de la plongée sous-marine a été sortie de l'eau sans réagir. Malgré les premiers soins, elle est décédée sur place. Quelques heures plus tard, une femme de 53 ans a été retrouvée morte après avoir fait de la plongée sous-marine dans un camping près de Emu Creek. La femme a disparu mardi et des recherches ont été lancées pour découvrir où elle se trouvait et sa dépouille a été retrouvée un jour plus tard. Hier, les villes du monde entier ont accueilli la nouvelle année avec des feux d'artifice et des spectacles de lumière éblouissants. Le spectacle du réveillon du Nouvel An à Sydney a reçu les éloges des dirigeants de l'État. À Londres, malgré les mauvaises conditions de météo, le spectacle s'est déroulé comme prévu, avec des milliers de feux d'artifice tirés depuis le London Eye et de l'autre côté de la Tamise. À Rome, des lumières laser et des feux d'artifice ont illuminé les murs du Colisée à l'aube de la nouvelle année, sous les yeux émerveillés de milliers de personnes. Et à Paris, des milliers de personnes se sont rassemblées pour le compte à rebours de la nouvelle année, sur l'avenue principale des Champs-Élysées, profitant du feu d'artifice qui a suivi. À New York, des milliers de personnes se sont rassemblées à Times Square pour assister au célèbre lâcher de boules avec d'énormes quantités de papier lancées après le compte à rebours de la nouvelle année. Le maire de New York a déclaré qu'il attendait la nouvelle année avec impatience. Et puis le premier bébé australien de 2025 est venu au monde quelques secondes seulement après le changement d'année. C'était à l'hôpital Prince of Wales de Randwick à Sydney. La mère de l'enfant raconte qu'elle se préparait à se rendre à Darling Harbour lorsqu'elle a soudainement commencé à ressentir des douleurs et a demandé à son mari d'appeler une ambulance. Le nouveau-né s'appelle Sean Cedric et il pesait initialement 3 kilos. On passe à la météo pour ce jeudi 2 janvier en Australie, à Perth maximal de 30 degrés, Adélaïde 29, Melbourne 21, Hobart 20, Canberra 25, Sydney 24, Brisbane 27, Darwin 35 et à Alice Springs maximal de 39 degrés. Fin du journal, merci de l'avoir suivi. Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le Vendée Globe et au dernier pointage, Charlie Dalla est en tête devant Johan Richom avec 36 000 nautiques d'avance et en troisième position se trouve Sébastien Simon. Un mot de foot, le championnat d'Angleterre, il y avait un match hier soir avec Arsenal qui a battu Brentford 2-1 et Arsenal qui garde la deuxième place au classement derrière Liverpool, troisième Nottingham Forest et en quatrième position Chelsea. Le coach de l'AC Milan a été limogé lundi, comme nous l'explique Sofiane Amazian pour Radio France Internationale.
L'idylle n'aura duré que 6 mois à peine. Paulo Fonseca, apôtre du beau jeu, a perdu de son aura après son départ de Lille l'été dernier. Déjà en difficulté lorsqu'il avait pris la tête de l'AS Rome en 2019, le technicien de 51 ans voulait passer un cap à Milan, une équipe qui joue le titre et la Ligue des Champions chaque saison. Mais les ennuis se sont accumulés. En quelques semaines, panne de résultats, brouille avec certains cadres, dont le français Théo Hernandez ou le portugais Rafael Leao. Seulement 12 victoires en 24 matchs et une 8e place au classement inquiétante à 14 points du leader l'Atalanta Bergame, le nul concédé ce week-end contre la Roma et l'exclusion de Fonseca pour excès de colère a accéléré l'arrivée d'un nouvel homme fort, Sergio Conceição, 50 ans, parti libre de Porto après 7 années de bons et loyaux services marqués par 11 titres remportés dont 3 championnats et 2 quarts de finale de Ligue des Champions disputés en 2019 et en 2021. Un sacré CV qui a plu aux dirigeants lombards en besoin de résultats rapide, cela tombe bien. Conceição est réputé très bon meneur d'hommes. La réponse, dans quelques jours, face à la Juventus Turin, Sergio Conceição, pour son premier match, fera face à son fils Francisco, joueur du club turinois.
Un mot de NBA avec LeBron James qui a fêté lundi ses 40 ans. Il est le symbole en ce moment des Los Angeles Lakers. Sofiane Amazian, RFI.
40e bougie sur le parquet à Cleveland dans l'Ohio où il est né. Premier en NBA cette saison, James meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue. Il joue depuis 2003 et malgré quelques cheveux blancs, il faut le dire, il ne fait pas son âge et ne le ressent pas vraiment.
Se réveiller et se dire « Oh mince, j'ai 40 ans », ça fait drôle. C'est amusant de constater que je joue encore au plus haut niveau. Je reste un jeune homme, mais je suis vieux par rapport au nombre d'années passées dans le basket. Je repense à mon arrivée dans la Ligue, j'étais un jeune de 18 ans à peine. Et maintenant, vous avez devant vous une personne de 40 ans en NBA depuis 22 saisons et qui a un fils de 20 ans qui joue aussi dans la Ligue. Pour être honnête, je pourrais jouer encore 5 à 7 ans si je le voulais, mais je ne vais pas le faire.
Et maintenant, ce focus sur les exploits récemment de Wemby, le français Victor Wembanyama, avec les San Antonio Spurs et ses vœux pour 2025. Victor Misistrano pour RFI.
Lorsqu'un journaliste demande à Victor Wembanyama ses vœux pour 2025...
Le bonheur, la santé, les playoffs.
Les playoffs, la phase finale, les Spurs n'y pensaient même pas la saison dernière. 8e de la conférence Ouest, ils sont cette fois dans le bon wagon et le doivent en grande partie aux Français, qui continuent de monter en régime des deux côtés du terrain. Bilan positif, désormais 17 victoires et 16 défaites. Arrivé cet été, le meneur de jeu Chris Paul a apporté son expérience à San Antonio et à 39 ans, il découvre le phénomène de 2m24.
Je n'ai pas de mots pour dire à quel point il est mature, sa mentalité, sa volonté de progresser. Et je pense que tout le monde oublie que ce n'est que sa deuxième année en NBA. Il facilite tellement le jeu, ses contres, sa défense. Je n'ai jamais vu ça. J'ai joué avec de grands défenseurs, mais lui, il a juste un don pour contrer les tirs adverses.
Et les contres, oui, je travaille ça à l'entraînement, bien sûr. Mais c'est plus, c'est un vrai travail mental, en fait, d'aller chercher le contre. Et souvent, dans des moments où on se dit que c'est pas possible d'aller contrer, mais il faut réussir à surpasser ça. Donc, c'est un gros travail mental.
Il faudra défendre samedi sur le pivot de Denver, Nikola Jokic, considéré comme le meilleur joueur du monde. Nouveau gros test, donc, pour Victor Wembanyama, le jour de ses 21 ans.
Et maintenant, on vous propose ce retour sur les JO de Paris avec ce reportage de Sylvie Coffey pour RFI.
Inoubliable, incroyable, fantastique. Tout a commencé par une cérémonie d'ouverture exceptionnelle où les délégations sportives du monde entier ont paradé sur la scène.
Bonsoir, bienvenue à Paris.
Et la patrouille de France et un cœur rose au-dessus de Paris.
Paris,
La pluie était de la partie, mais ça n'a pas gâché la fête. Tous ces chanteurs, ces bateaux sur la scène, c'était quelque chose d'unique.
Et pour moi, ces jeux sont inoubliables. Il y a quelques mois seulement, on a failli basculer. Où la France était représentée comme un pays qui va finir dans la guerre, dans les émeutes urbaines. Et là, ce pays, pendant 2 semaines, il s'est uni avec sa population, avec sa diversité, avec sa tolérance, avec son amour.
Et des exploits sportifs comme ceux de Léon Marchand avec 4 médailles d'or, un super-héros des bassins.
Mais Léon Marchand est en train de revenir, il accélère, les 10 derniers mètres sont absolument fantastiques pour Léon Marchand qui est champion olympique, Léon Marchand phénoménal qui...
C'est un truc de fou, je sais pas, je vais mettre beaucoup de temps à réaliser, je fais 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques chez moi. Je sais que c'est beaucoup de travail, ça vient de toutes les heures d'entraînement que je passe.
Autre championne, Aurélie Aubert, aux Jeux Paralympiques, décroche l'or dans sa discipline, la boccia.
En fait, je viens de réaliser que je suis championne paralympique. Avant, je ne réalisais pas. C'est incroyable.
Du beach volley au pied de la Tour Eiffel, de l'équitation à Versailles, ces épreuves se sont déroulées sur des sites inoubliables. La magie s'est opérée aussi au Grand Palais, métamorphosé pour ces Jeux, où l'Ivoirien Cheikh Cissé a décroché la médaille de bronze au taekwondo.
Il fallait à tout prix avoir un bout de la Tour Eiffel avec soi. C'est la médaille de la jeunesse, c'est la médaille de la Côte d'Ivoire et je suis très content.
Sur les sites ou derrière le petit écran, les supporters étaient nombreux à suivre les épreuves.
Moi, j'étais dedans, malgré que je travaille, etc. Mais ça arrive une fois par siècle, hein. 1924-2024. C'est un événement pas raté, ça.
Que l'on retienne les 4 médailles de la gymnaste américaine Simone Biles ou le selfie des pongistes des deux Corées, chacun garde en mémoire une image inoubliable de ces Jeux.
Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. Vous écoutez le programme en français. Eh bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Jean-Noël.
Et on va parler des prix de l'essence et le gouvernement du Queensland a fait appel pour une enquête sur le carburant.
Oui, tout à fait. Ils veulent une enquête, que l'enquête soit faite par l'Australian Competition and Consumer Commission. Donc, c'est l'organisation qui surveille le marché, qui surveille la compétition et les droits des consommateurs. Et c'est suite à une analyse des prix de l'essence par la NRMA, cette compagnie d'assurance, qui a trouvé que les conducteurs de Canberra ont payé en moyenne 196 centimes par litre d'essence. Donc c'est le plus haut du pays. C'est suivi par Brisbane à 195 centimes, Sydney à 191 centimes et Melbourne pour 180 centimes. Donc selon la NRMA, le prix baisse très peu souvent parce que les cycles peuvent durer des semaines et des semaines. Et ils disent qu'il n'y a pas vraiment de bonne raison pour que les prix soit si cher dans les plus grandes villes comme ça, quand on voit que la ville la moins chère, c'est Perth, où c'est 184 centimes le litre, donc beaucoup, beaucoup moins. Et puis à Perth, il y a un cycle de 7 jours, donc tout le monde sait qu'il faut acheter et faire le plein les mardis. Mais ça veut dire qu'une famille à Canberra peut payer 15 centimes de plus pour chaque litre d'essence ou 426 dollars chaque année qu'une famille a peur. Donc c'est une énorme différence et ça rajoute au coût de la vie et l'inflation une vraie pression économique. Donc là, la NRMA a fait appel pour cette enquête, pour le prix de l'essence à Brisbane, Sydney et Melbourne, et le ministre du Transport du Queensland, Brett Mifflinburg, est d'accord. Et il veut voir des solutions au long terme qui vont vraiment baisser les prix. Mais là, on attend vraiment qu'il y ait une réponse, une décision du gouvernement fédéral à propos de ça. Donc ça sera intéressant de voir comment ça se passe.
Pas tellement une bonne nouvelle si on fait un road trip en cette période de vacances. Et puis, Nicolas, on va parler de house sitting. C'est une mode de vie qui devient de plus en plus commun dans une économie où les prix des maisons et des loyers restent très hauts.
Oui, voilà, tout à fait. Le house sitting ou le gardiennage de maison, c'est donc quelqu'un part en vacances ou il part habiter ailleurs et on trouve quelqu'un pour habiter dans votre maison, prendre bien soin de la maison, du jardin, si on a un chien ou un chat. Et ça offre à ces gens une façon d'économiser de l'argent et de voir un peu des nouveaux endroits. Mais c'est peut-être aussi un signe qu'il y a des gens qui sont bloqués du marché de l'immobilier. Les loyers sont trop chers, les maisons sont trop chères. Ça a vraiment été l'histoire, l'immobilier, le prix des maisons, ça a vraiment été l'histoire de cette année 2024 avec les taux d'intérêt. Par exemple, il y a un couple qui s'appelle Jade et Adriana Wales, et ils n'ont pas payé de loyer pendant 8 ans parce qu'ils font du house sitting depuis. Et donc pour eux, c'est formidable. Ils ont vu tout le pays. Ils ont un endroit à rester. C'est gratuit pour eux et ils s'occupent de la maison. Donc il n'y a pas d'argent qui est échangé. Pour eux, c'est une vraie aventure. Mais ça peut aussi cacher un problème plus sévère. C'est-à-dire que c'est une façon de cacher le problème de sans-abri, des gens qui n'ont pas de domicile fixe, comme eux en fait. Et ça veut pas dire qu'eux ils peuvent pas tout à fait. C'est pas nécessairement qu'ils sont SDF, pas du tout. Mais pour certains gens, peut-être c'est une solution. Peut-être c'est ce qu'ils font parce que en fait c'est tellement cher. Et donc voilà, c'est une façon de vivre sans devoir payer. Et c'est pas nouveau non plus, ça existe depuis assez longtemps, mais les gens apparemment le font de plus en plus, et ils restent de plus en plus dans ces maisons. Voilà, ça reste le défi, c'était le défi de 2024 et ça reste le défi de 2025 pour les gouvernements de trouver une façon de créer, de bâtir plus de maisons à des prix abordables. Et pour ça, il y a bien sûr plein d'autres questions. La question d'un manque de main d'œuvre. Aussi, il y avait un problème avec, il n'y avait pas assez de produits de construction qui arrivaient. Il y avait des blocages. Donc, il y a le problème des prix. Tout ça, ça reste des grands problèmes pour le gouvernement fédéral et les gouvernements de l'État pour 2025.
Merci Nicolas pour cette analyse. À bientôt.
Merci beaucoup. À bientôt.
Vous écoutez le programme en français. Et maintenant, on vous propose une rediffusion d'une de nos interviews de l'année dernière. Alexander Yep, qui a reçu le prix National Prize for Excellence for Young Hope dans le cadre des French Teachers Awards pour célébrer la Journée internationale des professeurs de français. Alexander Yep est Head of Languages et il enseigne le français à De La Salle College à Malvern, dans le Victoria.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, j'ai le plaisir d'avoir dans les studios de Radio SBS Alexander Yep, qui est avec nous dans le cadre des French Teachers Awards en Australie pour célébrer la Journée internationale des professeurs de français du 21 novembre. Bienvenue, Alexander.
Merci et bonjour. Et bonjour à tous. Et franchement, ça m'a fait plaisir d'être là et merci pour l'accueil, quoi.
Et vous avez obtenu la National Prize for Excellence for Young Hope. Félicitations.
Merci.
Alors, peut-être pour commencer, parlez-nous de votre parcours comme prof de français et vous travaillez à De La Salle Malvern à Melbourne.
C'est bien cela. Donc voilà, actuellement je suis Head of Languages à De La Salle College à Malvern. Mais alors, donc, et j'y enseigne depuis 2 ans. Mais voilà, donc je vais parler un peu de mon parcours. Donc, en fait, quand j'étais au lycée, le français a toujours été ma matière préférée et j'avais des bons résultats et j'adorais la culture française et j'ai eu des professeurs exceptionnels et qui m'ont énormément inspiré. Et en tant qu'élève, je dirigeais même des clubs de grammaire pendant les pauses déjeuner et j'organisais des sessions d'entraide après les cours. Donc, c'était pas une surprise quand je suis devenu professeur et je pense que tout le monde, une personne n'était surpris du tout. Et voilà, à l'université, donc j'ai commencé à Monash. Donc j'ai combiné mon diplôme de commerce avec un diplôme en langue. Et alors, puis j'ai poursuivi un master en enseignement spécialisé en français et commerce.
Et vous avez appris que le français?
Oui, c'est ça, c'est bien cela. Et après cela, donc j'ai commencé à, donc j'étais assistant bilingue à l'école franco-australienne Camberwell Primary School. J'étais aussi bénévole au consulat français de Melbourne.
Avec Myriam Bourguier.
Avec Myriam, oui, c'est ça. Et j'ai donné aussi des cours à l'époque à des backpackers français, des cours d'anglais. Et ça m'a permis vraiment de m'immerger dans la culture française, de vraiment connaître des têtes françaises. Et voilà, et c'était vraiment mon engouement pour la langue française et la culture française qui m'a motivé à transmettre cette passion à mes élèves. Et voilà, et me voit. Alors après cela, donc j'ai en fait commencé à enseigner en 2020 et c'était en pleine pandémie. J'étais à Wesley College et j'ai enseigné le français. Et c'était drôle parce que mes premières classes étaient en ligne et c'était une expérience unique qui m'a vraiment appris à adapter mon enseignement pour engager les élèves, même à distance. Et c'était vraiment un défi, un challenge. Mais moi, ceux qui me connaissent bien savent que moi, j'adore les challenges et à relever les défis.
Et c'est plus facile pour vous d'enseigner les élèves de Year 12 que les élèves de Year 7?
Alors, je dirais que c'est une méthode d'enseignement complètement différente avec les tout petits. Je dis tout petits, mais avec ceux qui sont plus jeunes, c'est plus. Il faut rendre les cours très ludiques. Et c'est par exemple, dynamique. On fait des jeux. On fait des jeux interactifs.
Des quiz.
Ouais, des quiz. Il y a une application qui s'appelle GameKit que j'utilise souvent. Et vraiment, je pense que tant qu'ils s'amusent et tant qu'ils apprennent bien le français, voilà, il faut un peu marier les deux. Et il faut que je dise aussi que avec mes années 12, je rends les cours bien sûr ludiques aussi, mais alors c'est, on se concentre plus sur la grammaire, mais bien sûr, mais le contenu est plus complexe et on se plonge vraiment dans la culture française. Par exemple,
vous étudiez les romans.
Ouais, et en fait, cette année, on a étudié la gastronomie française. Donc, ça fait partie du Unit 4 French Studies. Mais j'ai décidé de, vu que en fait, j'enseigne dans une école réservée aux garçons, j'ai créé une unité sur le sport professionnel. Et on s'est concentré sur, par exemple, la rivalité entre l'équipe PSG et Marseille. Et donc, ils étaient vraiment dedans. Et voilà. Donc, je pense que la clé, c'est de trouver les sujets qui les passionnent.
Pour les garçons surtout.
Exactement. Donc, oui.
Le foot, le tennis et tout
exactement.
Ça.
Exactement. Ouais.
Et comment voyez-vous l'avenir du français comme enseignant? Est-ce qu'il y a beaucoup de challenges face à d'autres langues, peut-être?
Ça, c'est une excellente question. Et donc je pense que le français aura toujours une place importante à Melbourne. C'est vrai qu'on a... Donc, moi, je connais beaucoup de Français qui habitent ici. Et c'est une langue qui va pas disparaître, bien qu'il y ait...
Face au japonais, face au mandarin.
Exactement, parce que c'est une langue classique qui est...
Comme l'allemand.
Oui, exactement. Mais, franchement, je sais pas, mais...
Et vous-même, Alexander, vous parlez d'autres langues, autres que l'anglais et le français?
Alors, j'ai commencé à... Donc, il y a 5 ans, j'ai commencé à apprendre l'espagnol. Et parce que je suis un passionné de langues et c'était vraiment mon coup de cœur d'apprendre toutes ces langues, et donc l'espagnol et puis l'italien et maintenant le suédois. Et voilà, parce que je voulais apprendre une langue qui était un peu différente des langues romanes. Et voilà, et donc je souhaite à l'avenir pouvoir voyager et peut-être même à l'avenir à y enseigner l'anglais. Et en fait, de base, je voulais trouver un travail. Il y a 5 ans, à Paris, il y avait une école primaire où je voulais travailler, mais à cause du confinement, c'était pas possible. Donc c'est un projet que j'ai pour l'avenir, mais moi je sais pas quand exactement ce rêve va se réaliser, mais c'est un projet que j'ai, quoi.
Alors, un mot pour encourager les jeunes, vos élèves, à apprendre le français, et je crois que vous avez des anecdotes à nous raconter.
Exactement, ouais, c'est... je veux dire à tous les élèves qui apprennent le français, qui sont très courageux, et je veux vraiment aller parler d'un élève que j'ai eu.
En year 12?
Oui, en year 12 et en year 12. Et il vient de passer son examen il y a quelques heures. Donc, ouais. Et en tant qu'enseignant, je pense qu'on a tous des élèves qui nous marquent. Et ceux qui nous rappellent pourquoi on a choisi ce métier. Et ces moments où on voit un jeune réaliser qu'il est capable de grandes choses, c'est exactement pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Et moi, je me souviens d'un élève en particulier dans ma classe de français. Et au début, il avait du mal à croire en lui. Et beaucoup le voyaient comme un élève en difficulté. Mais moi, je voyais autre chose. Il avait un potentiel incroyable en lui. Et juste là, après à émerger, et un jour, je lui ai simplement dit, tu sais, tu es vraiment doué pour le français, tu peux le faire. Et si tu y crois, tu peux accomplir de grandes choses. Et là, quelque chose a changé. À partir de ce moment-là, il s'est mis à s'investir. Il venait à mes séances de soutien en français sur l'heure du déjeuner. Et c'était inouï, c'était inédit. Et semaine après semaine, je voyais son enthousiasme grandir. Et son changement n'est pas passé inaperçu. Ses camarades, mes collègues, ses autres professeurs, ses parents, tout le monde l'a remarqué. Et ce n'était pas qu'une amélioration dans ses notes. C'était vraiment une transformation personnelle. Et voilà, avec un peu d'encouragement, des retours positifs, le soutien de sa famille, il a commencé à se voir autrement. Et voilà, il n'était plus cet élève qui galérait en français, mais quelqu'un qui pouvait réussir, et qui pouvait aller loin. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et voilà, aujourd'hui, quand il a terminé son examen final, il est venu me voir. Et voilà, ça m'a ému un peu, mais il m'a dit...
Pour vous remercier.
Ouais, merci, c'est parce que vous avez cru en moi que j'y suis arrivé. Et je lui ai alors demandé, qu'est-ce que tu aimerais que je dise aux autres enseignants à propos de, voilà, de ton parcours? Il m'a répondu, même si on a l'air de ne pas avoir d'espoir, croyez en nous. Et voilà, et ces mots m'ont profondément marqué et ils m'ont rappelé l'importance de notre rôle de croire en nos élèves même quand eux ils n'y croient pas encore. Et voilà, et à cet instant je me suis aussi dit, et dire que j'ai pu faire une différence dans la vie de ce jeune, c'est vraiment, je le dis franchement, c'est le meilleur sentiment au monde pour moi en tant que professeur de français. Et puis, il y a eu la remise des diplômes et le voir sourire entouré de sa famille fière et reconnaissante, ça m'a rempli de joie. Mais c'était, voilà, ce n'est qu'un des nombreux élèves avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler. Et chacun ayant une histoire vraiment différente et spéciale. Et c'est ça qui rend ce métier de professeur de français si spécial, parce que chaque élève apporte ses propres défis et ses propres talents et ses propres rêves.
Parler de cette classe de VCE, Year 12, de la salle Malvern,
oui.
Vous avez combien d'élèves et, et apparemment, ils étaient tellement enthousiaste qu'il restait même après les classes.
Franchement, quand je savais que j'allais leur enseigner le français, j'étais aux anges. J'étais vraiment au septième ciel parce que c'est une classe qui... En fait, c'est une classe composée, en fait. Il y avait, donc, 6 élèves en année 11 et 15 élèves en année 12. Mais ils étaient tous vraiment motivés. Et j'ai jamais eu de classe qui restait jusqu'à 19h.
19h?
Ouais, 19h, il y en a. Donc, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, un événement, et on a raté une séance de français, j'ai rattrapé, donc j'ai proposé ces heures de rattrapage, et presque le monde est venu. Et c'est pour ça qu'il faut que je dise shout out to these VCE kids who are listening, parce qu'ils étaient vraiment, vraiment sympas, et c'était la toute première fois que où j'ai vu qu'il y avait ils étaient tellement passionnés par cette langue. Et mais il faut que je dise aussi que oui, c'est difficile de motiver ces élèves à apprendre le français parce que oui, c'est une langue assez difficile. Et mais ce que moi j'ai essayé de faire avec mes élèves, qui ça a marché très bien, par exemple à Wesley, à De La Salle College. Donc moi j'ai organisé des cours de sport collectif en français, des séances karaoké en français, language days aussi, des activités culturelles. Et même cette année, j'ai eu le plaisir d'organiser un séjour linguistique, enfin un séjour scolaire, un voyage scolaire en Nouvelle-Calédonie, juste avant tous les événements se sont passés là. Mais c'était vraiment cool de pouvoir passer beaucoup de temps avec eux et les voir interagir avec les gens du coin. Et ils ont appris à préparer un bunyan au centre Crépac, et ça c'était ils étaient vraiment dedans. Et et aussi de les voir vraiment voir que ce que j'ai dit, mon slogan, je sais pas si ça on dit ça en français, mais ce slogan, mon slogan à moi, c'est French is not only a school subject, it's a lifestyle. Et je voulais les faire découvrir la culture voilà, francophone, et que voilà, je voulais leur montrer que le français n'est pas qu'une matière scolaire qu'on apprend depuis les livres. Parce que moi j'adore les manuels scolaires, mais je pense qu'il faut qu'on montre aux élèves qui, voilà, c'est bien plus que ça. Et voilà.
Encore une fois, félicitations et merci d'être venu nous rendre visite à SBS en personne.
Merci de m'avoir reçu et voilà.
Et à une prochaine fois.
À la prochaine.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et nous arrivons à la fin de cette émission de ce jeudi 2 janvier 2025. Encore une fois, une belle année à toutes et à tous. Bonne fin d'après-midi et à très bientôt. Partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.